Et maintenant, nous vous proposons de suivre l'esplanade du Temple de Jérusalem, histoire et enjeux actuels, une conférence présentée par frère Dominique-Marie Cabaret, docteur en théologie dogmatique et docteur en archéologie. Il était enregistré le vendredi 26 septembre 2025 à l'occasion de la journée de rentrée de l'antenne de théologie des Pays de la Dour. Nous écoutons frère Dominique-Marie Cabaret.
Je vais vous parler d'un sujet donc, qui est peut-être même assez d'actualité, peut-être un peu brûlant par rapport même à ce qui s'est passé encore aujourd'hui, donc de l'esplanade du Temple de Jérusalem. Et j'ai mis ce titre, mais c'est ce titre sur lequel on s'est mis d'accord avec l'abbé Rino. On aurait pu aussi mettre l'histoire des mosquées, l'esplanade des mosquées, histoire et enjeu actuel. Donc vous savez que c'est un lieu qui est disputé. Donc on va essayer, dans l'heure qui vient, de faire un parcours depuis les origines, jusque actuellement. Donc évidemment, il va y avoir un petit côté survol, mais on ne peut pas faire autrement. Mais donc je pense que c'est important quand même d'essayer d'en venir jusqu'à ce qui se passe actuellement. Donc je commence. Alors, j'ai beaucoup de diapositives, il y en a certaines sur lesquelles je vais surfer, comme on dit. Vous faites du surf dans le coin, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. J'en ai trop, mais je préfère être comme ça, et puis éventuellement, ça permettra de revenir sur des questions, etc. Donc, l'esplanade du temple de Jérusalem, la voici. Donc, c'est une belle photo de 1916, prise par l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale. Vous savez que les Ottomans étaient du côté des Allemands pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, ce qui vous explique qu'au début de l'aviation, eh bien, il y a eu des bonnes photos. Et donc, c'est une des plus anciennes photos aériennes de l'esplanade, vous voyez, donc, du temple, mais sur lesquelles on voit les mosquées, avec ce fameux bâtiment octogonal au milieu, que moi j'appelle le dôme de la roche. Il y en a qui appellent ça le dôme du rocher, mais peu importe, le dôme de la roche, au sens où au centre, il y a la roche. Il y a une roche. Je vous montrerai un peu tout à l'heure. Donc, pour que les choses soient claires aussi, qu'on entre donc dans le vif du sujet de la bonne manière, vous voyez, quand c'est clair, ça vous éclaire, vous avez moins de noir, vous avez moins peur et vous pouvez éventuellement prendre des notes si vous voulez. Donc, vous avez la topographie de Jérusalem, les courbes de niveau, je pense que vous savez lire. Alors, c'est un peu déformé, hein, mais bon, je pense que c'est pas très grave non plus. Et vous voyez que le rectangle de l'esplanade, ou le presque rectangle de l'esplanade des mosquées ou du temple, culmine à 750 mètres avec cette roche qui est justement à l'intérieur du dôme de la roche. Et que, donc, vous voyez que à 700 mètres, donc à droite, il y a déjà 50 mètres, mais c'est beaucoup plus profond, c'est la vallée du Cédron. C'est en partie, donc, coupée. Et vous avez la vallée du Tyropéon. Bref, c'est Jérusalem. Ceux qui ne sont pas allés à Jérusalem, évidemment, c'est pas forcément très parlant. Ceux qui sont déjà allés, eh bien, c'est davantage. Il est évident que je ne peux pas là-dessus, il y a une inégalité parmi vous, mais on va essayer de la combler. Alors, je commence par les principales sources historiques sur ce qui s'est passé, donc sur cette esplanade du temple ou des mosquées, et donc pour simplifier, je vais finir par dire que esplanade. Donc, les principales sources historiques, en effet, c'était le lieu du temple juif. Alors là, je ne vais pas me pesantir beaucoup sur le temple, le premier temple, comme certains disent, donc le temple d'avant la destruction de Nabuchodonosor, cette fameuse destruction. Et les sources bibliques sont les principales sources historiques sur ce bâtiment. Parce que donc, nous n'avons rien de mieux. Nous sommes tributaires des sources bibliques. Alors ensuite, dans le premier livre des rois, dans le deuxième livre des chroniques, on ne va pas les lire, mais je vous les cite ici. Et donc on est tributaire de ces livres, tributaire dans le sens où est-ce que les bâtiments étaient exactement comme ça? Eh bien, on ne va pas faire ici de l'exégèse, mais il est un fait que les livres ont été écrits, ne datent pas de la construction du temple, à supposer qu'on le date donc de Salomon. Vous voyez, j'entre pas dans certaines polémiques parce que Salomon, par exemple, on n'en a pas de source autre que dans la Bible. Or, Salomon est le roi le plus fameux de l'époque, soi-disant, je ne nie pas, sauf que on n'a pas d'autres sources donc extra-bibliques qui en parlent. Alors donc, vous voyez, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que la Bible parle de certaines choses, mais est-ce que c'est un caractère biblique, surtout si ça a été écrit 4, 5, 6 siècles après les événements que ça relate. Hein, un peu comme si nous avions à écrire un livre aujourd'hui sur, par exemple, Saint-Louis ou Philippe Auguste, avec les sources dont nous disposons. Eh bien, est-ce qu'on arriverait, avec les sources dont nous disposons, à vraiment atteindre la vérité historique de ce qui s'est passé sous Philippe Auguste et donc Saint-Louis? Eh bien, oui et non. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas atteignables. Quoi qu'il en soit, donc, si on suit ces textes bibliques, donc là, je suis allé chercher sur Internet des belles représentations de ce temple. Et je ne vais pas m'apesantir sur ce temple qui donc a été détruit et qui et qui après donc a été reconstruit donc avec l'histoire qu'on va raconter. Donc c'était une époque où le temple donc avant l'exil, si on est vraiment si on discute avec les archéologues, voyez, je l'ai localisé ici, voyez. Le mur rouge, le mur bleu, c'est le mur actuel de la vieille ville. Hein, Jérusalem est une ville fortifiée, et c'est le mur bleu, il date de l'époque ottomane. Donc autrement dit, Soliman le Magnifique, autrement dit François Ier, pour faire clair, pour faire simple. Et le mur rouge, eh bien, c'est potentiellement celui qui existait donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, 6e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est plein de suppositions. Parce qu'on n'a jamais pu faire de fouilles sur l'esplanade donc des mosquées ou du temple. Et donc, en fait, le schéma que je vous ai représenté juste avant, les figures qui étaient avant, eh ben, c'est supposé être même sur l'emplacement du temple. Et il y en a qui, je connais des archéologues, qui disent mais on n'en est pas sûr. Parce qu'on n'a pas fait de fouilles. Alors, il y a quand même dans le livre d'Esdras le fait que le temple est reconstruit au même endroit. Et c'est vrai qu'il y a, a priori, une certaine plausibilité qu'il y ait une continuité entre l'emplacement du temple, du premier temple, et les temples et les bâtiments plus récents. Donc, on peut quand même partir sur cette hypothèse. Et après, il y a d'autres choses qui viennent en ligne de compte, c'est que dans l'Antiquité, enfin, quand je dis l'Antiquité, à l'âge du fer, à l'âge du bronze, donc l'âge du en Terre Sainte, l'âge du bronze se termine en 1200 avant Jésus-Christ, grosso modo. L'âge du fer, justement, se termine à la destruction du premier temple. Eh bien, on parle de ces périodes du fer et du bronze parce que, justement, ça serait un peu ridicule et ascientifique, non scientifique, de vouloir donner une date très exacte. Donc, on préfère parler d'un âge. Et donc, en fait, à cette période-là, eh bien, quand on regarde dans les villes qui sont à côté, il y a des temples à plusieurs endroits. Il y a le temple palatial, qui est à côté du palais. Il y a le temple qui est à la porte de la ville, juste à l'extérieur. Et vous avez là le temple qui est dans la ville basse. Donc, vous avez des temples à plusieurs endroits. Et donc, à Jérusalem, eh bien, il y a aussi de bonnes raisons de penser qu'on pouvait avoir donc des temples qui n'étaient pas forcément au même endroit, surtout que la ville de Jérusalem, avant qu'elle fût israélite, elle a été cananéenne. Et donc, il y a forcément des vestiges, et les cananéens étaient des hommes religieux, même s'ils n'avaient pas la religion des israélites. Et donc, il faut évidemment penser qu'il y avait des temples à l'époque cananéenne. Mais on n'en sait rien. Et là, pour le coup, les fouilles n'ont jamais été faites sur l'esplanade. Donc, ça empêche, évidemment, d'y voir très clair là-dessus. Alors, je ne l'ai pas dit, mais enfin, je pense que vous avez compris pourquoi il n'y a pas de fouilles qui ont été faites sur l'esplanade, à cause des raisons politiques. C'est-à-dire qu'actuellement, l'esplanade est tenue par des autorités musulmanes. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, pour eux, il est impensable de faire des fouilles sur l'esplanade. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça empêche évidemment de savoir exactement ce qu'on pourrait trouver en dessous. Donc, si on essaye de placer le temple, eh bien, j'ai fait un petit rectangle rouge, mais vous pourrez trouver, si vous cherchez, des archéologues qui vont vous dire, ben non, on n'en est pas sûr. Peu importe, on ne va pas s'apesantir là-dessus, je fais juste y passer, juste le dire. Donc ensuite, je viens au temple, donc celui qui a été reconstruit, donc vous savez, avec l'édit de Sirius, de Darius, donc avec la reconstruction du temple à Jérusalem, donc après l'exil, donc à Babylone, et donc cette reconstruction du temple qui ne va pas de soi du tout, d'ailleurs, hein, même pour les gens du coin, même pour les Égyptiens, même pour les Arabes, ou même pour les habitants de Sichem, donc de Naplouse, donc là où il y a le temple samaritain. Pourquoi ? Parce qu'une ville qui a un temple, c'est une ville qui devient économiquement quasi autonome. Parce qu'un temple, c'est une banque. Hein, donc on y apporte de l'argent. Donc ça signifie qu'en fait, quand vous êtes à 50 km à Samarie, donc là où il y a les Samaritains, et que vous entendez dire que le roi perse autorise la reconstruction ou demande la reconstruction du temple de Jérusalem, eh bien vous y voyez tout de suite un concurrent. Donc ça veut dire que les Samaritains, quand ils ont entendu dire ça, eh bien ils sont allés se plaindre au roi perse en disant « on ne veut pas, il ne faut surtout pas reconstruire le temple ». Et donc il y a eu des dissensions, ça apparaît, c'est toute une histoire, mais bon bref, quoi qu'il en soit, le temple a été reconstruit, et donc je vais en venir directement donc, aux autres sources historiques qu'on a sur la reconstruction du temple, avec le fait que donc, ce qu'on a, c'est ta date, finalement, de l'époque pratiquement de Jésus, du 1er siècle avant Jésus-Christ au 1er siècle après Jésus-Christ, avec les fameux écrits de Flavius Joseph. Alors, Flavius Joseph, vous ne savez pas forcément qui c'est, mais c'est un juif qui était originaire d'une famille sacerdotale, qui est né environ en 30, donc à l'époque où Jésus est mort sur la croix, et qui était d'une famille sacerdotale de Jérusalem, donc qui pouvait être prêtre, pas forcément grand prêtre, et qui, lors de la révolte juive des années 66-70, a été obligé, contraint par les révolutionnaires juifs, d'aller défendre la Galilée donc contre l'arrivée des Romains, sachant que ses parents étaient pris en otage. Et donc, en fait, il a été fait prisonnier par les Romains, par donc, Vespasien, le futur empereur, et donc qui a fini par l'adopter, Flavius Joseph disant qu'il a prédit à Vespasien qu'il serait empereur. Et ensuite, après, il y a des bonnes raisons aussi, logistiques, c'est-à-dire que d'avoir quelqu'un qui était d'une famille sacerdotale dans le camp des Romains, entre guillemets, ou au service des Romains, ça permettait aussi de discuter avec les insurgés. Et les Romains, qui étaient des gens donc, qui ne voulaient pas forcément la guerre, eh bien, étaient aussi soucieux de pouvoir avoir des gens qui leur montrait comment était le pays, et aussi qui pouvait parler, donc hébreu, ou parler araméen, avec les foules, avec la foule de Jérusalem. Donc c'était toujours intéressant d'avoir des traducteurs, comme on dit. Donc il y avait un avantage de conserver Flavius Joseph, de ne pas le tuer ou de ne pas le rendre prisonnier. Et donc, voilà. Et donc Flavius Joseph, donc, après la destruction du temple de Jérusalem en 70, donc là je vais vite, hein, mais je ne peux pas tellement faire autrement. Suite à la révolte juive de 66, eh bien, le temple de Jérusalem a été détruit, il a brûlé en 70, et donc Flavius Joseph ayant été du côté des Romains, il n'a pas pu rester à Jérusalem, il a fallu qu'il suive donc, la famille de Vespasien, Titus, à Rome, et donc c'est à Rome qu'il a écrit son œuvre qui s'appelle La guerre des Juifs, et aussi une autre œuvre qui s'appelle Les Antiquités juives, et aussi deux autres œuvres, mais je n'ai pas le temps de vous en parler. Et heureusement qu'il a écrit ça, parce que donc nous en savons beaucoup sur toute la région de Jérusalem, de la Judée, de l'Arabie, et sans lui, nous ne saurions rien. Alors, si on le sait, c'est que ces écrits ont été conservés. Et si ces écrits ont été conservés, c'est parce que les chrétiens de l'Antiquité ont jugé important que ça soit conservé. Mais si on fait un parallèle, eh bien, par rapport à la propre histoire de la Gaule, nous n'avons que Jules César ou quasi. Et donc, à la même époque, nous savons quasi rien, hein, vous voyez, de l'Occident. Alors qu'en Orient, eh bien, on a des livres qui nous racontent d'une manière assez précise les choses. Donc, comme donc, Flavius Joseph, qui a, vous voyez, donc, décrit le temple qu'il a vu, le temple agrandi par Hérode, le temple que Jésus a vu. Alors, la description n'est pas une photo. N'est pas un dessin. Donc même avec cette description, eh bien, en fait, il y a des choses qui demeurent incertaines. Voilà donc un autre texte. On ne va pas le lire, on n'a pas le temps. Mais c'est pour vous montrer donc les sources qui permettent aussi de discourir que je tienne aussi, je vous tienne un discours. Et donc on en arrive à une reconstitution, à une maquette que certains ont déjà vue, qui est à Jérusalem, d'une grande esplanade, vous voyez, entourée de colonnades, avec une partie centrale qui est réservée aux Juifs. Et avec au centre de cette enceinte, eh bien, un bâtiment qui contient donc la partie la plus sacrée du temple, et avec un temple, la partie la plus sacrée, avec donc au fond la salle dans laquelle il y avait donc dans l'ancien temple les tables de la loi, mais depuis rien du tout, sinon un chandelier et quelques petits ustensiles. Donc c'était vide, et donc à la différence des temples païens où c'était justement que la salle était vide. Alors qu'il y avait une statue dans les temples païens, Jupiter, etc., etc. Et je vais être un peu provocateur, hein, comme vous voyez cette structure du temple, et je vais vous remontrer d'autres plans, et bien en fait, il n'y a pas beaucoup de différence avec un temple païen. Hérode a construit un temple à la romaine, ou à la grecque, à la mode de son époque. Vous voyez, il y a un grand bâtiment dans le fond, je vous en reparlerai, qu'on appelle la basilique. Eh bien, c'était la chose classique, basilique, pas une basilique chrétienne, une basilique, c'était un grand bâtiment. On ne savait pas faire de grands bâtiments autrement que comme ça. Donc avec des rangées de colonnes, donc à la manière des basiliques chrétiennes, c'était la main, on n'avait pas de béton armé. Donc on savait faire les grands bâtiments, on ne savait faire que comme ça. Et donc dans tout forum de ville romaine ou grecque, à Éphèse, à Rome, etc., etc., vous aviez des basiliques. Et dans tout forum, a priori, vous aviez un temple au milieu de la place. Vous voyez, vous avez une place là. Et vous avez un temple au milieu. Donc ça ressemble beaucoup. Et devant le temple, évidemment, il y a un autel. Et un autel sur lequel on fait brûler donc, les offrandes. Et les offrandes, on les fait à l'extérieur parce que c'est beaucoup plus clair. Et ça, enfin, il n'y a pas de problème de nettoyage. Donc, voilà le centre. Alors, je n'ai pas le temps de vous expliquer comment était le temple, etc. Sinon, on ne va pas pouvoir aller jusqu'à la période moderne. Donc, je vais vous parler des agrandissements. Donc, vous voyez, juste après l'exil, le temple était beaucoup plus petit que celui que je viens de vous montrer. Parce que, donc, il va y avoir des agrandissements successifs jusqu'à l'agrandissement d'Hérode le Grand. Donc, Hérode le Grand, il a été roi entre 40 avant Jésus-Christ et moins 4. Hein, Hérode le Grand, c'est celui des saints innocents, hein, donc qu'il ne faut pas confondre avec son fils, qui est l'Hérode Antipas, qui est celui de la mort de Jésus, qu'on voit apparaître dans les récits de la mort. Hein, c'est son fils. Dans les évangiles, ils s'appellent tous les deux Hérode, mais c'est deux personnages différents. Donc, le temple, vous voyez, il va être plus petit, carré, donc juste après Simon le Juste, c'est donc après l'exil. Après, il y a la révolte maccabéenne, donc c'est lié au Maccabée, hein, donc c'est au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Et puis, donc, vous avez l'agrandissement donc sous les Asmonéens. Les Asmonéens, c'est la dynastie qui est issue de la révolte maccabéenne, donc c'est une dynastie juive qui va avoir le souci d'agrandir un temple et qui va donc notamment faire le portique de Salomon qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Et si donc on en vient à l'agrandissement d'Hérode, et bien voyez, juste avant Hérode, donc Hérode, il a commencé à vouloir agrandir son temple, 10 ans en moins 20, grosso modo. Donc 20 ans, enfin, ou presque 20 ans après son accession au trône. Je ne vais pas entrer dans le détail non plus, ça serait trop long. Et donc il a voulu agrandir le temple. Vous voyez, c'est passé de ça à cette taille-là, en faisant quelque chose de très très beau. Les apôtres se sont extasiés devant le temple et Jésus avait de quoi scandaliser ses apôtres quand il dit « il n'en restera pas pierre sur pierre hein, ». C'était vraiment un bâtiment, des bâtiments très beaux. Et Hérode, ça mériterait aussi qu'on détaille, hein, mais la manière dont il n'était pas du tout aimé de son peuple parce que justement il faisait des bâtiments païens dans Jérusalem, eh bien au bout d'un certain temps, il a voulu essayer de les amadouer en construisant le temple. Au début, les juifs et les grands prêtres n'y croyaient pas, tellement c'était grand, et donc ils ont exigé que tous les matériaux soient réunis avant que les travaux soient commencés, parce qu'ils avaient peur que ça ne soit jamais terminé. Et en fait, au même moment, donc Hérode a pu ainsi construire un autre palais à l'autre bout de la ville. Donc il y avait aussi quelques petits intérêts. Donc voilà un plan, vous voyez, de masse, du temple avec les différents agrandissements. Je passe les détails parce qu'il y a beaucoup d'essais de reconstruction du temple et on n'en est pas tous d'accord. Donc c'est pour vous montrer que les archéologues en fait ont émis beaucoup d'hypothèses et comme il n'y a pas eu de fouille, eh bien on est quand même, on reste quand même sur une certaine incertitude. Et donc ce qui signifie qu'il y a un archéologue israélien, vous voyez, par rapport à la maquette que je vous ai montrée tout à l'heure, eh bien elle est fausse. Selon un archéologue israélien, elle est fausse parce que vous voyez que là, le rectangle rouge, il est un peu décalé, donc pas orienté directement à l'ouest. Il est un peu décalé, pourquoi ? Parce que, regardez, il y a des citernes. Et les citernes ont un certain sens. Et moi, je trouve que cet avis de l'archéologue israélien, qui s'appelle Joseph Patrisch, eh bien, n'est pas du tout stupide. Je vous rappelle qu'un temple, il y a un petit côté abattoir, avec des ruisseaux de sang. Il faut beaucoup d'eau pour nettoyer. Donc quand on a des citernes qui sont en dessous, eh bien les citernes, c'est comme des œuvres qui étaient que des grosses piscines souterraines. Eh bien c'est compliqué à construire. Et quand on les fait avec une certaine orientation, c'est qu'il y a des raisons. Surtout quand elles sont très anciennes. Donc il faut évidemment tenir compte de ce qu'il y avait en dessous. Voilà. Et donc là, vous avez la basilique royale, donc ce grand bâtiment, mais on va pas prolonger parce que sinon on n'aura pas le temps de tout dire. Juste une toute petite chose pour vous montrer que, rappelez-vous, dans l'évangile, quand Jésus va dire, détruisez ce temple et en trois jours je le reconstruisais, on va dire, ça fait 46 ans qu'on a commencé le temple, et toi, en trois jours, tu vas le reconstruire. 46 ans que le temple a commencé à être construit, le temple d'Hérode a commencé à être construit. Il n'est pas terminé. Qu'est-ce qui n'est pas terminé ? Eh bien, justement, c'est pas si évident. Et vous voyez, même le mur des lamentations que les Juifs vénèrent aujourd'hui, qui date d'Hérode, eh bien, figurez-vous qu'on a retrouvé en dessous, donc au plan de l'archéologie, dans un mikvé, donc, je vous passe les détails, donc un endroit, en dessous d'une des pierres, une pièce de monnaie d'Agrippa Ier, qui date de 44, son règne, après la mort de Jésus. Problème. C'est-à-dire que le mur n'était pas construit à l'époque de Jésus. Tout un débat. Voilà, je vais vous parler maintenant de l'architecture hérodienne, rapidement. Donc, vous voyez, le temple, il est détruit, mais on a quand même une petite trace à Hébron, le Haram d'Hébron, en arabe, arabe. En arabe, Haram, ça veut dire le sanctuaire. Donc, le sanctuaire d'Hébron sur les tombes des patriarches. Donc, Abraham, etc., etc. Et donc, vous voyez, ces murs qui ont des pilastres. Donc, je ne vous parle pas du sommet, parce que ça a été rajouté après. Mais donc, en fait, vous avez ces structures de murs qui sont hérodiennes. Donc, il faut penser que le temple de Jérusalem avait cet aspect. Vous voyez, avec des belles pierres, très belles constructions. Voilà. Et donc, on retrouve aussi à Jérusalem, dans les ruines du temple. Parce que donc, on a retrouvé au pied du temple, de l'esplanade, des pierres qui ont été versées depuis le haut et qui permettent, donc vous avez ici des photos, sachant que là vous avez le pinacle, enfin le coin nord, le coin sud-ouest du temple, et donc regardez un peu la taille des pierres, hein, c'est des pierres majestueuses, voilà. Donc tout ça, ça vous montre un temple qui était absolument magnifique. Donc vous voyez, on peut aller plus loin et on peut même repérer une pierre qui fait 13 mètres de long ou un peu plus, 3 mètres de hauteur, 3 mètres de large environ, et donc ça fait 517 tonnes, plus grosse que les pierres des pyramides. Donc voilà, alors a priori elles n'ont pas été transportées sur des grandes longueurs, mais vous voyez c'est que donc Hérode a quand même fait un agrandissement qui est tout à fait donc exemplaire. Vous voyez, on retrouve cette pierre. Voilà. Donc ensuite, juste un tout petit coup d'œil sur la basilique royale du temple, donc d'après Joseph. Donc si vous lisez un peu, vous voyez, les colonnes étaient réparties en quatre files, se répondaient les unes les autres sur toute la longueur de l'édifice, la quatrième rangée étant adossée au mur, l'épaisseur de etc etc. Donc les chapiteaux ciselés selon les modes corinthiens suscitaient l'admiration en raison de la splendeur de l'effet produit par l'ensemble. Bref, un très beau bâtiment. Donc j'ai déjà montré tout à l'heure cette photo. On arrive à faire des reconstitutions à partir de la mosquée El-Aqsa. Donc vous voyez, en dessous, vous avez la photo satellite de la mosquée El-Aqsa. Donc on va en parler tout à l'heure. Enfin, on n'en reparlera pas forcément beaucoup, mais enfin bon. Et on voit ce bâtiment qui faisait 180 mètres de long. Donc un stade. Donc absolument magnifique. Voilà une autre représentation, donc avec une ouverture sur donc l'esplanade. Et donc si on essaye de faire une restitution, donc un bâtiment donc somptueux. Alors bon, là aussi, ça, on pourrait en parler plus longtemps, parce que donc ça permettait à Hérode d'avoir un bâtiment sur l'esplanade. Ça permettait sans doute aux vendeurs du temple d'être à l'ombre. Donc quand Jésus chasse les vendeurs du temple, à mon avis, ils étaient dans cette basilique, parce que donc quand on connaît la chaleur de Jérusalem l'été, il faut être maso pour y rester, au soleil. Donc, ou bien ils étaient sous les portiques. Bon bref, quoi qu'il en soit, donc très beau bâtiment. Et donc, je l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a la démolition du temple donc en 70 après Jésus-Christ. Et on en a la preuve, puisqu'on a retrouvé, en faisant les fouilles, et bien vous voyez, des amas de pierres qui ont été versés depuis le haut du temple sur le bas, et qui montrent une rue qui a été bouleversée, qui a été cassée. Vous voyez, et donc on a laissé les pierres en place dans le fond, et on a montré comment la rue a été cassée sur le devant, donc la preuve de la destruction, vous voyez, une preuve archéologique de la destruction du temple, telle qu'elle est relatée par les historiens, et en particulier Flavius Joseph. Donc ce temple, d'ailleurs, juste une chose, les Romains, Titus, donc je vous ai parlé de Vespasien tout à l'heure, le futur empereur, vous savez que c'est celui qui a succédé, après Néron, et Néron s'est suicidé. Et il y a eu une année où il y a eu 3 empereurs. Et Vespasien a été acclamé justement empereur par les légions d'Orient. Mais il y a eu des guerres civiles à Rome pour que finalement l'un des 3 l'emporte. Et celui qui l'emportait, c'est Vespasien. Et Vespasien, donc, quand il a été acclamé empereur par les légions d'Orient, il devait immédiatement revenir à Rome. Donc il a d'abord été à Alexandrie, qui était la grande ville du coin. Et de là, Alexandrie, il est parti pour Rome. Et il a laissé son fils Titus finir le travail. Mais à l'époque, Jérusalem n'était pas encore prise. Et donc, il y avait tout le siège de Jérusalem qui a été fait par son fils Titus. Et quand on en est venu au dernier jour du siège, et où il était évident qu'on allait prendre le temple pour les Romains, quand on se place du côté des Romains, eh bien, il y a eu un conseil de guerre avec Titus, donc qui était le chef. Et lui, il était le seul parmi les généraux à dire... non, il ne faut pas détruire le temple. Alors, il faut savoir qu'il était, comme amante, comme compagne, Bérénice, qui était une princesse juive, et que, donc, très vraisemblablement, Bérénice, sur l'oreiller, lui avait dit, s'il te plaît, conserve le temple. Et le temple a brûlé. Pourquoi ? Parce qu'un légionnaire a lancé un morceau enflammé par une porte, par une fenêtre, et que... Il n'y avait pas de système d'incendie, et donc les pompiers n'existaient pas, et donc à partir du moment où le temple a commencé à brûler, personne ne l'a arrêté. Voilà, donc destruction du temple, catastrophe évidemment pour les juifs, et donc maintenant on va se poser la question, qu'est-ce qu'il y avait sur l'esplanade du temple après ? Alors là vous voyez, j'ouvre un grand chapitre parce que très souvent, donc il y a un petit imaginaire, moi je prétends que c'est un petit imaginaire, où on entend dire, oui, Jésus a maudit le temple. Donc, en fait, l'esplanade du temple, en fait, c'était un terrain vague pendant la période byzantine. Eh bien, non. Alors, donc, cette grande esplanade, qu'est-ce qui s'est passé ? Et ça a commencé à être occupé dès la période romaine. Et là, il y a des fouilles qui ont été faites dans Jérusalem à l'extérieur qui permettent de l'attester. D'abord une toute petite question, un petit point, c'est que on a un peu l'expérience maintenant, si on peut parler comme ça, avec Notre-Dame de Paris. Vous savez, Notre-Dame de Paris qui a brûlé. Donc imaginez que Notre-Dame de Paris soit complètement détruite, c'est pas pour ça qu'on ne célébrerait plus la messe à Paris ou qu'on ne la célébrerait pas à côté. Donc les familles juives sacerdotales, elles n'ont pas été expulsées de Jérusalem en 70. Le temple a été détruit, oui. Le temple, ils n'ont pas pu forcément accéder, mais mettez-vous à la place des familles sacerdotales, eh bien, de même que des prêtres à Paris célébreraient la messe à côté de Notre-Dame de Paris, il est évident qu'il y a quelque chose qui a continué. Et pour moi, c'est la meilleure des raisons, c'est la raison pour laquelle Hadrien, donc je vais vous en parler tout à l'heure, l'empereur, en 130, va expulser les familles juives de Jérusalem. Pour qu'il n'y ait plus rien, pour qu'il n'y ait plus aucun culte autour du temple. Parce qu'il voulait que ça s'arrête. Donc il y a eu, moi je ne suis pas le seul à le soutenir, il y avait un frère de l'école publique qui s'appelle Étienne Naudet qui le soutenait. Moi je pense que, et vous avez une autre trace aussi dans l'évangile, vous savez, quand Jésus parle à la Samaritaine, eh bien le temple de Samarie, il a été détruit en 100, la date n'est pas tout à fait existe, mais en tout cas à la fin du deuxième siècle, donc en 118 avant Jésus. Et la Samaritaine dit, nous c'est ici qu'on vénère Dieu. Au présent. Vous voyez, hein? Donc, qu'est-ce qu'il y avait sur le mont Garizim à la période de Jésus? Eh bien, il y avait sans doute quelque chose. Il n'y avait peut-être pas le temple en bonne et due forme, mais il y avait un certain culte qui continuait. Donc, d'abord, c'est un premier élément par rapport à l'esplanade du temple, mais sachant que les Romains, en fait, l'ont occupé. Et pourquoi on le sait? Parce que, justement, là, vous voyez, je vous ai mis donc, des plans qui relèvent de l'archéologie, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer, mais il y avait un viaduc qui reliait l'esplanade avec la ville haute. Donc, la ville de l'ouest était haute. Et donc, il y avait la vallée du Tyropéon, et donc... Vous savez bien qu'on n'aime pas beaucoup descendre pour remonter. Eh bien, c'était beaucoup plus classique, beaucoup plus facile d'avoir un pont qui permettait de relier la colline de l'ouest à l'esplanade des mosquées, à l'esplanade du temple, pardonnez-moi. Et donc, ce viaduc, eh bien, il y a des fouilles qui ont été faites il y a une petite dizaine d'années qui ont montré qu'il a été doublé sous Adrien. Si on double un viaduc sous Adrien pour aller sur l'esplanade, c'est qu'on on a une bonne raison de le faire. Il ne s'agit même pas de restaurer, il s'agit de le doubler, d'en doubler la capacité. Si vous prenez le mur sud, alors je vous passe aussi là donc, les considérations d'archéologie, mais vous voyez ces belles pierres rectangulaires, eh bien, elles ne sont pas hérodiennes. Je vous ai montré tout à l'heure, hein. Les pierres hérodiennes sont assez classiques parce qu'elles ont des marges. Là, elles n'ont pas de marge. Eh bien, les derniers résultats archéologiques, vous voyez, donc là, attendez, je vais un peu trop loin, vous voyez ici, vous avez la mélange de pierres hérodiennes au centre, et à droite, justement, les pierres en question. Eh bien, c'est du deuxième siècle, du deuxième siècle après Jésus, Adrien. Donc là, les Romains ont reconstruit l'esplanade qu'ils avaient détruite en 70. Ils ont reconstruit en 130 l'esplanade qu'ils avaient détruite en 70. Et donc, si maintenant on prend les sources historiques, hein, que j'ai mis là, mais que on pourrait détailler, eh bien, on sait que il y avait sur l'esplanade, et je vais vous le relater tout à l'heure, voilà, il y avait sur l'esplanade, je vais vous montrer les textes, une statue d'Adrien. Alors, si vous allez voir les archéologues israéliens, eh bien, ils vont vous dire, il y avait sur l'esplanade le temple capitolin qu'Adrien a fait construire à Jérusalem. Alors, il y a une chose que je ne vous ai pas encore dite, c'est que Adrien, ce fameux empereur, c'est un des plus grands empereurs romains, les plus prestigieux, il a transformé Jérusalem en ville romaine. Il en a fait une colonie romaine, qu'il a donc baptisée Aelia Capitolina. Aelia de son nom de famille, Capitolina, parce qu'il a voulu que les dieux tutélaires de la colonie soient les dieux du Capitole, Jupiter, Juno et Minerve. Donc, s'il y a une colonie romaine, fondée en 130, et à mon avis c'est la cause de la deuxième révolte juive, eh bien il y a forcément un temple en l'honneur de Jupiter, Minon et Minerve qui a été construit à Jérusalem. Et c'est là que les avis divergent donc un peu. Donc attendez, voilà, vous voyez, si vous prenez donc Cassius, par exemple, donc un historien, à Jérusalem, Adrien fonda une cité en place de celle qui a été rasée complètement. Il est appelé Aelia Capitolina, à côté de la place du temple de Dieu, il érigea un nouveau temple à Jupiter. Si vous prenez Origène, il dit, au début, l'abomination des désolations avait la forme des statues d'Adrien et de Gaius. Gaius, c'est Caligula. Le pèlerin de Bordeaux en 333, là où sont deux statues d'Adrien, non loin des statues se trouve la pierre trouée dans laquelle les Juifs viennent chaque année. Jérôme de Stridon, donc Saint Jérôme, cela peut s'entendre simplement de l'Antichrist ou l'image de César que Pilate fit placer dans le temple où la statue équestre d'Adrien qui, de nos jours encore, vous savez que Saint Jérôme habitait Bethléem, qui, de nos jours encore, se dresse sur l'emplacement même du Saint des Saints. Et donc, de l'époque d'Adrien, donc là, c'est dans une lettre à Saint-Paulin de Nol, de Saint-Jérôme, de l'époque d'Adrien, du règne à Constantin, pendant 180 ans, sur l'emplacement de la résurrection, une image de Jupiter, sur le rocher de la croix, etc. je ne vais pas plus loin, parce que donc la thèse de Saint Jérôme, que moi j'appuie, avec donc des raisons que je veux, enfin, je pourrais vous répondre à des questions si ça vous intéresse tout à l'heure, eh bien, c'est qu'il y avait sur l'emplacement du Golgotha et de la tombe de Jésus le temple capitolin, et que sur l'emplacement du temple juif, eh bien, Adrien y avait construit une plateforme sur laquelle il a installé sa statue équestre. Alors, si vous êtes allé à Rome, eh bien, sur la place du Capitole, il y a la statue équestre de Constantin ou de Septime Sévère, enfin, je n'entre pas dans le débat. Et donc, c'est une statue avec un cheval en bronze, grande, hein, avec l'empereur dessus. Et donc, je ne sais pas si vous voyez un peu l'injure que c'est vis-à-vis de la sensibilité juive, que les sabots du cheval de l'empereur foulent le lieu le plus saint du temple juif. Il y a de quoi faire une révolte. Et donc, l'esplanade a été embellie sous Adrien, justement pour en faire l'écrin de cette statue équestre, qui regardait donc vers le temple de Jupiter, qui était à l'emplacement donc du Golgotha, et de l'autre côté donc de la colline. Je n'ai pas pu tout vous montrer. Et donc voilà un peu le plan qu'on peut faire, hein. Vous avez le forum, le temple capitolin, donc sur la gauche, c'est l'emplacement du Golgotha, c'est l'emplacement du tombeau de Jésus. Donc ça vous semble être dans la ville, mais en fait, à l'époque de Jésus, ce n'était pas dans la ville. À l'époque d'Adrien, oui. Donc en 130, oui. Et puis, vous avez l'esplanade des mosquées avec une plateforme et avec la statue équestre en face. Évidemment, ça, c'est la thèse que je défends, hein. Il y a des archéologues israéliens qui ne sont pas d'accord avec ça. Et donc, je vous ai mis en rouge le camp de la Légion, parce que ça, c'est aussi une autre chose, c'est qu'en 70, eh bien, Titus a laissé une Légion à Jérusalem. Une Légion, hein, c'est 5000 hommes environ. C'est pas n'importe quoi. Alors, ils n'étaient sans doute pas 5000, parce qu'il y avait des détachements qui étaient un peu ailleurs. Mais n'empêche que ça a profondément marqué donc, la géographie de Jérusalem. Et si vous avez une Légion, si vous avez une plateforme avec une statue équestre de l'empereur, eh bien vous avez forcément un culte impérial. Et vous avez forcément, si on peut dire, une place de revue, avec des emplacements où on met la troupe. Et donc là, vous avez une explication du fait que le viaduc, qui permettait la communication entre les deux côtés, hein, avec donc une rue centrale, mais qui passait en dessous du viaduc, le viaduc, hein, il est ici, voilà, eh bien, qu'on puisse doubler la capacité de ce viaduc pour éventuellement que les légionnaires ou la légion encore constituée, si je peux parler comme ça, eh bien, s'y rendent. Voilà, et donc ça, c'est l'époque romaine. Je vais vite, parce que sinon, on n'arrivera jamais au bout. Donc voilà, on peut faire des alignements. Si ça vous intéresse, je vous en parlerai. Mais on n'a pas le temps d'en parler maintenant. Donc, venons-en à l'époque byzantine. Donc, l'époque byzantine, c'est le moment où l'Empire romain est devenu chrétien, ou a commencé à devenir chrétien, notamment sous donc Constantin, sachant que la véritable période byzantine commence donc à la fin du IVe siècle, tandis que Constantin était au début du IVe siècle. Constantin a quand même bien christianisé la ville, mais donc la période byzantine, on va dire qu'elle commence au IVe siècle. Donc, je vous ai déjà donné la réponse, puisque Saint Jérôme, qui vivait donc au Ve siècle, à la fin du IVe, au début du Ve, eh bien, en fait, lui a vu la statue de l'empereur. Et c'est tout à fait normal, hein, parce que donc c'est pas parce que l'Empire est devenu chrétien qu'on a déboulonné les statues d'empereurs. Excusez-moi, il n'y avait pas de boulon à l'époque, mais vous voyez ce que je veux dire. L'Empire romain est resté, c'est-à-dire que les chrétiens se sont inscrits dans la continuité de l'Empire romain et n'ont pas fait de révolution. Donc ils ont assumé, hein, les grands empereurs. Et donc Jérôme a vu la statue sur l'esplanade du temple. Alors vous voyez bien que donc la réponse, c'est le terrain vague. Ben non. Il n'y a pas de terrain vague. Alors, c'est d'autant plus qu'on trouve, vous voyez, des vestiges de l'esplanade du temple. Donc, si je reprends un plan, vous voyez la photo que je vous montrais, c'est la porte qui est ici, elle n'est pas dessinée sur le plan, là. Eh bien, c'est une porte, a priori, qui date soit de l'époque byzantine, soit de la première période musulmane. Il y a aussi des débats, là, entre spécialistes. Mais bon, quoi qu'il en soit, moi j'aurais plutôt tendance à dire qu'elle date de l'époque byzantine. Donc c'est une belle porte qui est bouchée aujourd'hui. J'entre pas aussi dans la raison pour laquelle elle est bouchée. Ça s'appelle la porte d'or, la porte dorée. Et ce qui est aussi important, c'est que donc sous l'esplanade des mosquées, donc oui, je vous ai pas tout dit, mais en 1928, il y a eu un tremblement de terre, un gros tremblement de terre à Jérusalem, qui a failli faire détruire d'ailleurs tout le Saint-Sépulcre, l'église où il y a le Golgotha et le tombeau. Et donc la mosquée Al-Aqsa, donc sur la mosquée, une des mosquées sur l'esplanade, en fait, s'est en partie écroulée. À l'époque, c'était les Britanniques qui étaient souverains. Donc il y a eu, pendant la période britannique, comme on dit, eh bien, en fait, la reconstruction de la mosquée Al-Aqsa, avec de l'argent qui venait, parce que ça s'est prolongé pendant la Première Guerre mondiale, et donc il y avait de l'argent qui est venu de Mussolini, et notamment de la pierre de Carrare qui est venue de Mussolini. Eh bien, il y a eu des petites fouilles qui ont été faites, et sous la mosquée, on a retrouvé des mosaïques. Alors, qu'est-ce que c'était que ces mosaïques ? Vous voyez, donc c'était à minima des maisons et même peut-être une église. Alors il faudrait pouvoir faire des fouilles en plus, mais c'est pas possible. Donc, que l'esplanade ait été un terrain vague, et ce d'autant plus qu'il y avait la statue d'Adrien. Voilà, donc maintenant venons-en donc au lieu saint musulman à partir du 7e siècle. Je regarde un peu ma montre, donc j'ai encore un quart d'heure. Et donc, en fait, vous avez donc les Byzantins, vous avez les Omeyyades, Abbasides, Seljoukides, je fais timide, je passe les détails, et là, vous avez la construction des mosquées. Donc, évidemment, là, la statue d'Adrien n'y est plus. En souterrain, vous avez peut-être là, ce qu'il faudrait appeler la première mosquée Al-Aqsa, qui est donc cette marwaniyeh, que les croisés ont appelée les écuries de Salomon, croyant que c'était Salomon qui avait mis ses chevaux là. Un beau bâtiment qui est retransformé en mosquée aujourd'hui, qui est sous l'esplanade, oui, donc ça c'est aussi plein de sujets, donc vous voyez, donc la manière dont les musulmans l'ont transformé. Et puis ce qui est certain, c'est que la plateforme sur laquelle est construit donc le dôme de la roche, eh bien, a été augmentée de surface, donc vous voyez, à l'époque Ayyoubide, il y a eu un agrandissement, hein. Donc voilà, je passe les détails, ça serait trop long. C'est des bâtiments très beaux, magnifiques, et qui sont encore dans le jus du 7e siècle pour la plupart. Il faut comprendre que les bâtiments musulmans sont un reflet de la splendeur des bâtiments chrétiens qui, eux, ont été détruits. Parce qu'il ne convenait pas que les musulmans aient des bâtiments moins beaux que les chrétiens. Donc, voilà la roche qui est au centre. Voilà la manière d'ailleurs dont les croisés l'ont aménagé. Donc avec les croisés, quand ils ont pris donc Jérusalem, n'ont rien changé dans le dôme de la roche. Ils ont mis simplement une croix au-dessus et ils ont mis un autel sur la roche pour y célébrer la messe. Voilà la mosquée Al-Aqsa, donc qui est commencée en 705. Voilà l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa. Donc avec c'est la reconstruction de la dernière guerre mondiale, avec des colonnes qui sont en marbre de Carrare, offertes par Mussolini. Et donc, il y a quand même des parties qui sont plus anciennes, qui sont très belles. Voilà. Alors, je passe les détails, ça serait trop long, parce qu'il faut que j'en vienne maintenant, donc, justement, à l'époque contemporaine, parce qu'en fait, finalement, ça n'a pratiquement pas changé depuis l'époque, la première époque musulmane. Donc, vous êtes depuis le 7e siècle, eh bien, les bâtiments qui sont là, qui sont dessus, sont pratiquement tous identiques. Alors, il faudrait détailler, parce que à l'époque fatimide, il y a eu quand même pas mal de constructions, avec des beaux bâtiments, mais c'est sur le côté et c'est pas sur les parties centrales. Alors quand on regarde, vous voyez cette chronologie, Mamelouk ottoman jusqu'en 1917, le mandat britannique entre 1920 et 1948 avec la SDN, Société des Nations, et puis en 1948-1967 la période jordanienne, donc la Jordanie est née du mandat britannique et de la manière dont les Britanniques avaient promis à la dynastie Hachimite, la dynastie Hachimite c'est la dynastie jordanienne actuelle, qui autrefois avait la garde des lieux saints, donc de la Mecque et de Médine, mais qui s'en ont fait déposséder par les Wahhabites, donc autrement dit les Saoudiens actuels. Et donc les Hachimites, ils remontent familialement au prophète. Et donc ils se prétendent être ceux qui doivent conserver les lieux saints. Et donc, comme finalement les Britanniques ont laissé faire les Wahhabites qui ont pris la Mecque et donc Médine. Ils ont donné comme lieu de, comme lot de consolation, comme lot de consolation, Jérusalem aux Hachémites, au roi jordanien. Donc l'actuel roi jordanien dépend du prophète. Et donc c'est pour eux, pour cette dynastie, d'avoir l'esplanade des mosquées. C'est pour eux finalement un vestige de leur gloire passée et auquel ils tiennent comme la prunelle de leurs yeux. Hein? Donc voilà. Alors, je vous dis ça parce que ça va vous permettre de comprendre les choses. Parce que donc, entre 67 et 2014, occupation israélienne, 1967, c'est la guerre de 6 jours. Et là, évidemment, vous le savez bien, les Israéliens vont prendre la vieille ville et vont prendre l'esplanade des mosquées. En 1948, les Arabes, au moment de la fondation de la reconnaissance de l'État d'Israël par l'ONU, ont mis le paquet sur Jérusalem parce qu'ils ne voulaient pas perdre l'esplanade des mosquées. C'est quand même la troisième mosquée de l'islam. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça peut nous plaire ou ça ne peut pas nous plaire, mais c'est la troisième mosquée de l'islam. Donc pour eux, ils étaient prêts à mettre le paquet, ils ont mis le paquet et c'est comme ça qu'ils l'ont conservé. Et donc par contre, donc les Israéliens l'ont pris en 1967. Mais à ce moment-là, la souveraineté est restée jordanienne sur l'esplanade. Alors, on va détailler un peu. Donc, guerre de 6 jours, les Israéliens s'emparent de la vieille ville et de l'esplanade des mosquées. Donc, en juin 67, un accord sur un statu quo pour l'esplanade des mosquées. Donc, Moshe Dayan, le ministre israélien de la Défense de l'époque, convoque quelques jours après la victoire israélienne de 67 les autorités religieuses musulmanes qui gèrent le site au sein d'une fondation. Alors, en arabe, on appelle ça le waqf. Hein. Waqf, c'est une sorte d'association. Donc, toute mosquée est un waqf. En Terre Sainte, ou en Jordanie, ou en Arabie, un waqf, c'est le mot typique pour dire association. Et donc, il y a une association qui gère l'esplanade des mosquées. Et donc, par l'intermédiaire du waqf, la souveraineté jordanienne sur l'esplanade des mosquées est confirmée en 1967. Par contre, la police est assurée par Israël. Alors, aujourd'hui encore, c'est ce qui se passe. Vous avez un service d'ordre jordanien qui est muni de talkie-walkie, qui n'est pas armé, qui fait le service d'ordre, un peu comme à Lourdes. Vous avez des gens, des brancardiers, qui font le service d'ordre. Mais la police est assurée par les Israéliens. Donc, eux qui sont des policiers armés ou bien même des militaires, mais c'est plutôt des policiers. Et donc, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que le grand rabbin d'Israël, donc en 1967, a interdit aux Juifs de fouler l'esplanade de peur de fouler le Saint des Saints, dans lequel seul le grand prêtre avait le droit d'entrer. Il faut bien comprendre que donc, le Saint des Saints, c'est la partie la plus sainte du temple. On ne sait pas exactement où elle était. Et selon la loi juive qui descend donc de Moïse, seul le grand prêtre a le droit d'y entrer une fois dans l'année, le jour du grand pardon. C'était pas de la rigolade, c'est-à-dire qu'il y a un grand rideau, et donc on y accrochait le vêtement du grand prêtre avec des clochettes, pour que s'il a un AVC ou une attaque de l'autre côté du rideau, on puisse savoir qu'il y avait un problème. Et on lui mettait une corde au pied pour pouvoir le tirer. Donc, en cas de problème. Donc, ça veut dire que seul le grand prêtre pouvait y entrer. Et donc, le grand rabbin, en 1967, va dire, attendez, tous ceux qui ne sont pas de famille sacerdotale, donc tous ceux qui ne sont pas Cohen, vous n'avez pas le droit de fouler le Saint des Saints, ou même le Saint. Donc, le Saint, c'était la partie autour du Saint des Saints. Et donc, comme on ne sait pas exactement où c'est, eh bien, dans l'incertitude, il ne faut pas y aller. Donc, l'accord sur 67, alors on saute encore, on va vite. En septembre 93, il y a les accords d'Oslo. Je pense que vous êtes suffisamment sages ici pour les avoir connus, il me semble-t-il. Peut-être pas quelques-uns, mais enfin bon, voilà. Donc, pour laisser la place, je rappelle, ces accords d'Oslo, ça a fait une énorme espérance. Pourquoi ? Parce que, justement, il y avait l'accord pour la fondation d'un État palestinien, et donc l'État d'Israël à côté. Et pour fonder l'État palestinien, ben, il fallait que la Jordanie renonce à sa souveraineté sur les territoires jordaniens que Israël avait occupés depuis 67. Donc la Jordanie a renoncé à sa souveraineté pour laisser la place à une autorité palestinienne de tous ces territoires qui étaient à l'ouest du Jourdain, sauf l'esplanade des mosquées, qui est restée sous souveraineté jordanienne avec la bénédiction des Israéliens, parce que les Israéliens préféraient avoir un roi jordanien très faible, qui est de l'autre côté du Jourdain, souverain sur cette partie, eux faisant la police, plutôt que d'avoir cette esplanade des mosquées sous l'autorité de l'autorité palestinienne, parce que les Israéliens voulaient absolument pas, ou très peu, que l'autorité palestinienne ait de pouvoir sur Jérusalem-Est, autrement dit la vieille ville et tout ce qui est à l'est de Jérusalem. Alors vous savez que ces accords d'Oslo ont duré ou n'ont pas vraiment duré sur certaines questions, puisque donc il y a beaucoup, Rabin a été assassiné, Yasser Arafat est mort, et donc voilà. Aujourd'hui, on est dans cet état-là. Alors j'en viens maintenant au 25 février 94. Alors ça peut vous paraître une date qui n'est pas forcément très importante, mais en fait si, parce que donc à cette date-là, il va y avoir un massacre au tombeau des patriarches d'Hébron. Je vous ai montré la photo tout à l'heure. Hein, vous savez, l'endroit où il y a les tombes des patriarches, avec cette belle architecture hérodienne. Eh bien, un fondamentaliste juif, religieux juif, est entré avec une mitraillette dans la mosquée à l'heure de la prière et a arrosé de sa mitraillette en faisant donc 29 morts et 125 blessés. Évidemment, ça a tout fermé. Les Israéliens sont arrivés avec l'armée, ont fermé la mosquée, sachant que la mosquée était partagée avec les Juifs et que certains jours, puisqu'il y avait le tombeau des patriarches, les Juifs avaient le droit de venir y prier et les musulmans laissaient les Juifs venir y prier. Et donc la mosquée d'Hébron est restée fermée donc pendant 6 mois, et quand elle a été rouverte, eh bien en fait il y a désormais des portes d'acier qui séparent un secteur juif d'un secteur musulman. Et ça, pour les musulmans, eh bien ce qui s'est passé à Hébron, ça va se passer sur l'esplanade des mosquées. Donc en fait, réouverture du tombeau des patriarches, donc le 7 en 94 avec des portes d'acier. Et donc ensuite, si on continue, en septembre 2000, la visite d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées, donc là, c'était à l'époque, donc c'était le futur Premier ministre, il était le chef du Likoud, donc le parti de droite, et donc c'est vraiment, donc ça semblait vouloir donc être contre le statu quo dont je vous ai parlé, qui avait été fondé par Moshe Dayan, donc en moment de 67, et donc ça va provoquer des affrontements qui sont à l'origine donc de la deuxième intifada. Donc cette intifada, ça veut dire la guerre des pierres. Hein. Et donc, cette visite d'Ariel Sharon va en fait initier, enfin commencer un mouvement que l'article donc, de ce journal, que vous pouvez trouver, donc, qui a été publié en 2022, eh bien, fait qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez des juifs orthodoxes qui montent régulièrement sur l'esplanade, manière de dire « c'est à nous ». Et ils prient. Moi, ça, je peux vous dire, je les ai vus. Nous, chrétiens, si on monte sur l'esplanade et qu'on commence à faire, par exemple, à se réunir un groupe chrétien et à faire un signe de croix et à dire un Notre Père, eh bien, on s'est tout de suite éjecté parce que le principe, c'est que le service d'ordre jordanien, avec ses toki-woki, eh bien, dit non, le statu quo, normalement, vous n'avez pas le droit de prier. Eh bien, quand les juifs orthodoxes montent sur l'esplanade des mosquées, ils sont escortés de la police israélienne. Et je peux vous dire, parce que je l'ai vu de mes yeux, eh bien que quand ils sont dans l'axe du temple, du Saint des Saints, ils s'arrêtent et ils prient en silence, des fois pas tout à fait en silence, et que la police israélienne ne fait rien et qu'ils peuvent rester un quart d'heure immobile, une demi-heure immobile, à prier. Et donc évidemment, pour les Israéliens et pour les musulmans, eh bien c'est une provocation. Et surtout, donc, pour eux, ils y voient une tentative de s'approprier le lieu. Et donc, vous avez, vous voyez, 50 000 visites par an, les Juifs se rendent de plus en plus sur l'esplanade du Mont du Temple. Et vous avez au même moment, donc, c'est un article qui est de 2023, le grand rabbin séfarade, les visites de Ben Gvir, donc c'est le fameux ministre actuel donc israélien, qui est vraiment d'extrême droite, au Mont du Temple, sont un péché. Pour la raison que je vous ai dite tout à l'heure, hein, c'est que il faut pas fouler le Saint des Saints. J'ai presque fini. Là, vous avez donc aussi un autre aspect. Donc, vous avez ce qu'on appelle l'Institut du Troisième Temple, qui est en train de reconstituer tout le matériel qu'il faut pour reprendre les sacrifices, et qui a déjà taillé les pierres, qui déjà essaye chaque année de faire venir une pierre sur l'esplanade des mosquées, et qui donc sur les plans, demande la destruction de la mosquée Al-Aqsa, du Dôme de la Roche. Alors, il y a certains qui prétendent donc qu'ils ne sont pas obligés de détruire le Dôme de la Roche, mais qu'il faudrait construire le temple à côté. Voilà, et vous avez des articles qui sont faciles à trouver. Là, j'en ai pris un, par exemple, et je terminerai donc par le fait que, pour un chrétien, parce que ce n'est pas du tout clair, il faut savoir que, par exemple, les chrétiens évangéliques des États-Unis soutiennent la construction du troisième temple. Et pour un chrétien, ce n'est pas possible, à mon avis. On peut peut-être en discuter si vous voulez. Mais vous voyez, dans la lettre aux Hébreux, le Christ est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire en répandant non pas le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Donc, les courants chrétiens qui veulent la reconstruction du troisième temple, eh bien, ça consiste à dire que Jésus est mort pour rien. Ou qui ne croient pas que Jésus, le sacrifice de Jésus sur la croix, les sauve. Et donc, voilà, donc vous pouvez retrouver ça dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 10 aussi, et éventuellement aussi dans cette manière dont Jésus a répondu à la Samaritaine, l'heure vient et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, non plus dans ce temple que Jésus n'a pas renié, mais à partir du moment où Jésus est mort sur la croix pour nous, eh bien, aujourd'hui, le véritable lieu où se trouve Jésus, c'est dans toutes les églises du monde, là où il y a un tabernacle, et là où aussi la messe est célébrée, puisque la messe, c'est la réactualisation non sanglante de l'unique sacrifice de Jésus qui nous sauve. Et donc, en fait, l'avantage de ce culte nouveau, c'est qu'il est universel, si je peux dire, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un prêtre en Patagonie ou en Australie et Jésus est présent, et le sacrifice que Jésus a réalisé est à nouveau réactualisé, et qu'on n'a pas besoin d'aller à Jérusalem, dans un lieu précis, pour adorer, véritablement adorer Dieu. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre l'esplanade du Temple de Jérusalem, histoire et enjeux actuels, une conférence présentée par frère Dominique-Marie Cabaret, enregistrée à l'occasion de la journée de rentrée de l'antenne de théologie des Pays de l'Adour. C'était le vendredi 26 septembre 2025.